situé à la théorie du projet architectural. C'est en ce lieu, à mon sens, le vrai lieu, que tout se décide, d'elle et de son destin, y compris des possibilités même d'un jugement. J'ai pris au sérieux l'architecture et le prestige dont elle se parle d'être un art. J'ai respecté cette nomination quasi kérigmatique en la renvoyant à ses impératifs. Et respecter une telle proposition, c'est pas en recevoir le tribut ou le paiement, en le refilant sous main comme une monnaie usée. Le respect ici n'est pas la déférence pieuse ou le supplément d'âme octroyé à l'architecture dont on connaît trop par ailleurs que les directions marchandes. Le respect dû à l'égard de cette proposition, l'architecture est un art, c'est le respect dû à l'égard de l'un des mots qu'elle contient, l'un des plus hauts de la tradition occidentale, dans ce qu'elle aura su former d'une image de l'homme créateur. Celui d'art, dont Heidegger, et il faudrait questionner cette insistance d'ailleurs, n'aura cessé de dire qu'en grec, art signifie technique. Des voies donc ouvertes et des vues prises sur l'objet de l'architecture, j'ai tenté de montrer les occurrences. Alors a été savoir doctrinal, alors elle peut être objet d'une science descriptive, d'une phénoménologie, mais elle peut être aussi l'objet d'un questionnement ontologique et herméneutique à la fois. C'est cela que très brièvement j'ai tenté d'assumer. Mais c'est bien sûr ce point insistant, en ce point où peut-être et depuis toujours l'architecture en son dire aura revendiqué pour elle-même d'être un art, qu'il faut faire porter tout l'enjeu d'un questionnement aujourd'hui. Postuler l'accès à la dignité d'art majeur, c'est pas seulement en effet attestable et justifiable d'une place marquée par avance dans le système des beaux-arts. Ça peut être une lettre de créance, mais cela ne confère un titre et un rang, mais cela n'assure d'aucune vérité. La vérité ici exige, et comme toujours, plus que la convention et la règle, plus que les certitudes du sens commun ou les assurances de la doxa. En vérité, et ici quant à l'art, qui est quand même, pour le jugement esthétique, un domaine d'appartenance qui en est son présupposé et sa postulation majeure, la vérité est dure et impitoyable. Elle exige, pour se dire présente, véritable et vérifiée, justifiable et justifiée, l'œuvre. La présentation de l'œuvre. La vérité exige l'œuvre. La présentation de l'œuvre, telle est l'épreuve. Et tel est le lieu fidèle, en quelque sorte, que j'aurais tenté de tenir à la proposition aristotélicienne, dans laquelle le jugement est le lieu de la vérité. Si, en quelque sorte, pour résumer, si le lieu de la vérité, c'est-à-dire le lieu de l'œuvre, pour l'architecture a été la ville, si elle n'a plus de rapport à cet horizon transcendantal, il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus de condition de possibilité d'un jugement esthétique en architecture. Et bon, je laisserai cette question en son suspens. Je rappellerai simplement pour celui encore qui demanderait l'existence et la profération d'une faculté jugée, je rappellerai ces vers de Rilke extraits des sonnets à Orphée. Rilke dit « C'est l'heure, vois-tu, de supporter ensemble fragments et morceaux, t'aider, ce sera dur. » Merci.
J'ai trouvé essentiel l'allusion à Nietzsche et aux grandes œuvres. Ça m'a fait penser à cette fameuse antinomie kantienne, à savoir que dans le chef-d'œuvre, ça ne se démontre pas, ça pourrait se mettre en formule mathématique, démonstration impeccable. De l'autre côté, il doit y avoir quelque chose de commun qui peut renvoyer à un espace public, et quelque chose doit pouvoir circuler à l'intérieur du chef-d'œuvre. Sans ça, on serait dans la pure monadologie sans même porte ni fenêtre. Donc il me semble qu'il y a là une espèce de double tension entre la nécessité d'un chef-d'œuvre, donc la nécessité de penser quelque chose comme une hiérarchie, ouais, qui n'est pas la hiérarchie sociale donnée, ouais, et qui est effectivement quelque chose qui nous mettrait à distance de ce côté postmoderne, tout va bien, tout est bon. Ouais. Il me semble qu'il y a là la nécessité, en architecture et aussi en philosophie, de continuer de reprendre la perspective d'un espace critique en ayant quelque chose là, à la fois comme une auto-limitation et comme une auto-hiérarchie, en étant capable de désigner. Il semblait que c'était important de désigner du côté de la ville et qu'on a là l'espace public et pas simplement j'aime ci ou j'aime ça. C'est pour ça qu'il y a là la nécessité de reprendre dans des conditions absolument nouvelles la nécessité d'un jugement de goût qui soit substantiel, qui ne soit pas simplement le jugement d'une subjectivité.
Tout à fait.
Et ça me semble nécessaire.
Moi, je te remercie de cet accord, en tous les cas. Ce que je voulais préciser, c'est que l'idée de ville a été assez abîmée, assez péjorée dans les espaces de pensée, parce que précisément, elle n'a pas été constituée dans ses déterminations suffisamment, que tu viens d'expliciter. La difficulté est énorme aussi, elle est extrême, y compris pour les philosophes. Et les philosophes, je dirais, les critiques, peut-être pas les historiens, mais en tous les cas, les philosophes, portent une responsabilité intellectuelle grave, parce qu'ils ont quand même laissé, je dirais, les urbanistes, les architectes, assumer une des formes les plus difficiles, les plus dures du destin moderne, parce que ce qui arrive, c'est quand même les grandes villes, c'est quand même les métropoles, c'est le fait brut que 3 Français sur 4 sont urbanisés. Ça s'est passé en l'espace de 40 ans, il n'y a pas une société, enfin dans la longue durée de la civilisation humaine qui a subi un tel traumatisme. Hors de cela, rien n'est pensé. Deux exemples. Quand Habermas pense quelque chose de l'espace public, je pense que ça n'a pas échappé, rien n'est référé à la matérialité de cet espace public. Rien de l'espace public, finalement, n'est renvoyé à quelque chose de ce qui nous arrive, c'est-à-dire la métropole. Par exemple, exemple topique. Quand le débat s'est engagé sur le moderne ou le postmoderne, par exemple, dans ces différentes occurrences, rien de cet événement considérable qui a été, par exemple, pour la pensée allemande, l'apparition dans les premières années de ce siècle de la Rorschach, qui ça travaille la pensée esthétique d'un Simmel, par exemple, constamment, Benjamin, bien sûr, d'autres, rien d'une herméneutique de la modernité. Ou de la postmodernité n'a été référé à la ville, à l'urbain. Alors, il y avait une espèce de grand débat sur la modernité, extraordinairement, pour le coup, déterritorialisé quant à son espace d'émergence, de surgissement. Je crois, en tous les cas, on est quelques-uns à essayer aujourd'hui de retisser des liens dans cette dimension. Parce qu'il en va aussi du politique. Enfin, oui, il en va du politique.
Moi, je suis intéressée par ce que vous disiez concernant certaines relations entre la modernité et la postmodernité. Et si on fait référence au Barroso, qu'on va retrouver une grande architecturale, et si on lit par exemple les textes de Zagorski, on voit bien une question très nette entre postmodernité et modernité, en ce sens qu'il n'y a pas de question entre les arts. À savoir, quand on parle d'architecture, on parle de peinture, on parle aussi en termes de musique, etc. Or, il me semble que ce qui caractérise modalité, aujourd'hui, bon, c'est l'absence de projet, mais c'est aussi l'absence, c'est le cloisonnement
Tout à fait. Oui.
Donc là, je vois une cassure assez,
tout à
assez
fait. Radicale. Oui. Je suis d'accord, c'est en cela que le postmoderne n'est pas en excès sur le moderne, et ne peut avoir représenté que les figures d'un retrait, parce que ce qui ne sera pas forcément une synthèse, ce ne serait pas une espèce de mélange, mais de mise en tension et même d'invention de nouveaux coups, de nouvelles occurrences artistiques, dans des rapports entre des médiums pas autonomes, n'est pas tenté, n'est pas joué. Parce que précisément, enfin je dirais, il y a comme il n'y a pas une lâcheté, c'est un mot trop moral, mais il y a comme une dérobade à ce moment. Parce que là, il y a le refus d'une prise de risque, incontestablement. Absolument. Ouais. Parce que tous nos débats, enfin, ce que vous dites, ça me fait percevoir finalement qu'on connaît très très mal notre modernité. Enfin, de ce qui s'est passé de l'année 1913 à aujourd'hui, on le connaît très mal. On ne l'a pas repris
C'est-à-dire que Dada correspondrait plus à la
postmodernité,
à savoir entre
la
juxtaposition.
Oui.
Mais avec de l'ironie aussi.
Voilà. Sauf que Dada est dans une temporalité historique où il y a encore de la censure, il y a de la tension, et à ce moment-là, ces actes prennent un sens performatif pour le coup, qu'ils ne peuvent pas avoir aujourd'hui dans une espèce de ventre mou généralisé.
Pensée.
Oui.
Pas absent de
jugement. Non. Va déjeuner.
Bonjour, sur la masque, ouais. Le sujet que tu as dit, aussi sur la porte de Dieu et je propose qu'on réponse un peu.
Ouais, mais avec la table ronde aussi qu'on veut faire,
ça, voilà,
on pourra te reprendre là,
je crois.
Vous êtes d'accord?
Hein?
C'est bien. C'est bien ça.
Effectivement,
Bon, donc on commence la dernière journée du colloque qui va être dédiée plutôt à revenir sur les questions qui ont été posées sur le jugement hier par le philosophe, mais avec un regard un peu différent, celui des architectes. Donc, aujourd'hui, on va commencer donc par mon exposé, puis après, on devrait continuer par celui des Magnani, mais Mucci m'a demandé d'échanger parce qu'il doit partir, si ça ne dérange pas. Et puis, on continuera avec celui des Narcozzi. Donc, je vais essayer donc de faire un peu, c'est pourquoi je me suis mis là, ici, entre les philosophes et les architectes, c'est pour essayer de faire un peu le pont entre ce qui a été dit hier et ce que j'espère sera dit aujourd'hui. Ce que je crois savoir sera dit aujourd'hui. C'est-à-dire entre le regard un peu général des philosophes et puis c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'architecture elle-même. Encore une fois, je veux essayer de faire ces ponts à partir de la situation actuelle. Ce qui ne veut pas dire que je serai attaché à des concepts ou à des idées théoriques qui sont seulement celles qui sont produites aujourd'hui. Donc, je pense qu'il n'y a pas à faire en architecture ce qu'on ne fait pas en philosophie, c'est-à-dire on peut très bien parler de l'actualité et encore plus sur les choses à venir si on est capable de regarder un peu les instruments architecturaux qui ont été fabriqués par l'histoire. Donc je pense que ce regard actuel ne contredit pas des citations un peu plus anciennes. Mais pour revenir sur la situation d'aujourd'hui, je pense qu'il y a à faire une distinction entre deux types de jugements
sur l'architecture, deux types de jugements qui concernent l'architecture.
Je vais essayer de travailler ces différences. D'une part, il y a les jugements qui concernent le travail de l'architecte, c'est-à-dire le jugement propre à l'architecte. C'est lui qui lui permet d'inventer ou de produire une idée. L'architecture étant définie par Vitruve comme juge des artes, juge des techniques, l'architecte, c'est lui qui, dans le chantier, est capable, par son jugement, d'inventer une idée architecturale, donc non seulement de conduire les chantiers, non seulement d'être le chef du chantier, sinon d'inventer la forme de l'œuvre finie. Donc, en une part, c'est le jugement qui est propre à l'architecte, et qui est interne au système des productions de l'architecture, et d'autre part, on a un jugement qui est produit a posteriori, un jugement basé sur des critères plus universaux, un jugement critique ou pas de l'œuvre architecturale. Non, on aurait d'une part un jugement à l'intérieur de la production architecturale, de la poiesis architecturale, et d'autre part, on aurait un jugement basé sur des critères de jugement de l'œuvre architecturale. Et en général, on divise ces deux types de jugements et on essaye de les voir séparément, on essaye de les penser séparément, même s'il y a des liens entre l'un et l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, on assiste à une crise dans le jugement de l'architecture, c'est pourquoi je pense que c'est un thème qui conserve encore une grande actualité. Une crise dans ce deux types de jugements. D'une part, il n'y a plus, si j'ose dire, des critiques architecturales, il y a très peu de critiques architecturales. L'architecture, les critiques d'architecture, ceux qui doivent critiquer l'architecture, juger de l'architecture, ceux qui doivent même juger pour décider dans les concours sur la valeur d'une architecture, semble en absence des critères, ou change trop souvent des critères, ce qui revient au même. Et puis, il y a aussi un problème dans l'invention architecturale. Une espèce de changement trop vite des images. On confond souvent le jugement inventif de l'architecte avec l'imagination. C'est-à-dire, on confond souvent la succession des images, le changement des styles avec l'invention architecturale. Déjà, chez Vitruve, dans la ratiocination, c'est-à-dire dans l'étape dans laquelle l'architecte devait juger pour produire de l'architecture, pour inventer son idée, le jugement de l'architecte dans l'invention était produit par cogitatio et invention. C'est-à-dire qu'il y avait une pensée qui précédait l'invention. Cette invention, donc, n'était pas une invention fantaisiste. N'était pas de l'imagination, n'était pas seulement de produire des images. Barbaro faisait bien cette distinction, et dans un texte très éloquent là-dessus, c'est pas son commentaire où il trouve, un autre texte sur l'éloquence, il définit, c'est ce qu'il appelle l'imagination. Imagination qu'il dit très utile au peintre, mais qu'il ferait fabriquer dans l'air, et qui donc ne servirait pas l'architecte. Il dit, j'entends dire que l'imagination garde en elle les images et les apparences que reçoivent les sens, et que celles-ci sont bien souvent si métaphorisées que nos rêves apparaissent moins troubles et moins confus qu'elles. C'est ainsi que l'on trouve des gens qu'on appelle fantaisistes ou fantastiques. Parmi eux, il y a ceux qui se font à eux-mêmes rois et seigneurs, et croient si fort d'être ce qu'ils disent d'être, qui provoquent le rire et la compassion. Ces gens sont amenés à fabriquer dans l'air. Donc, l'imagination, cette imagination-là, très utile au peintre, n'est pas le jugement inventif de l'architecte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit apparaître une espèce de fétichisme des images, une espèce de succession des néos, comme dirait Vessière, qui est plus proche de cette fabrique dans l'air. On fabrique des objets à la mode qui se démodent successivement, qui n'a rien à voir avec le jugement inventif de l'architecte tel qu'il était tout au moins défini par Vitruve. Donc, vous voyez une espèce de correspondance, il y a un manque, une absence de critères de jugement extérieur à l'œuvre, on ne sait pas comment juger les architectures, mais les architectes ont perdu aussi cette capacité à découvrir les bases d'un jugement inventif, comment juger de manière inventive l'architecture. Or, les architectes cherchent, je vais parler un peu plus de cette deuxième chose, c'est-à-dire le jugement inventif, je pense que c'est là où les choses se passent, à mon avis c'est là où les bouleversements viendront, plutôt que des critères extérieurs des jugements de l'architecture. Je vais être plus clair, je pense que autant il y a un fétichisme des images, on peut aussi développer un fétichisme théorique, un fétichisme des concepts. Et je pense qu'il faut éviter autant les architectes qui fabriquent dans l'air que ceux qui vont essayer de baser leurs inventions sur la dominance d'un intellectualisme, d'un conceptualisme trop dominant, trop fort. Déjà, cette espèce de tendance de l'architecture à chercher dans la théorie et dans la certitude qui donne la pensée philosophique, la base de son travail, déjà, ceci est plutôt ancien. L'abbé Logier, par exemple, à propos de la construction de l'église de Sainte-Geneviève, se présentant comme philosophe, celui qui possède la science de la proportion, proposait aux architectes de construire une église qui soit à la fois classique mais avec les dimensions gothiques, et sans pouvoir donner la résolution de cette architecture, il disait c'est aux artistes de s'occuper de cette chose, de la pratique, c'est aux philosophes de décider la théorie qui la gouverne. Donc je dis ça parce que on ne devrait pas passer d'une époque où l'absence des critères de jugement nous amène à chercher les jugements dans la philosophie comme voulait Logier à son époque. C'est la philosophie devait baser pour lui une théorie des proportions, une science des proportions. Contre cet avis de Logier, Fraisier, par exemple, va essayer, dans un débat entre eux, dans la moitié du XVIIIe siècle, va essayer de parler d'un autre type de jugement, plus proche à celui qui était décrit hier par Payot, celui du discernement, de la discrétion. Et il va dire, concernant la règle pour juger du beau et du déforme en architecture, cette règle ne se trouve que dans les esprits libres des préjugés, qui après avoir combiné plusieurs ouvrages de différents temps et auteurs et nations, sont en état de discernement, la beauté et distinguer celles qui sont les vraies beautés des beautés à la mode. Je ne vais pas vous lire exactement toute la citation, mais elle tourne autour de ça. Dans cet aspect du discernement, opposé à une théorie qui essaye de fixer d'anneau la forme architecturale, est déjà un débat qui date au moins du XVIIIe siècle. La discrétion, donc, c'est une des pistes. Le discernement, la discrétion, c'est une des pistes que je propose de garder en tête pour comprendre comment se produisent ces jugements inventifs de l'architecte. C'est pas la même chose, le jugement inventif et la vie spéciale, mais tout de même, il pourra nous permettre de faire le pont. Je vais le lire tout de même parce que c'est assez intéressant. Pour revenir un peu, je reviens un peu sur des notions qui étaient déjà traitées auparavant, sur cette idée de la discrétion, du jugement, du discernement. Je vais lire une définition de Lomazzo. On reviendra sur Lomazzo plus tard. 1590, c'est vrai. C'est daté. Mais enfin, j'essayais de montrer que même si c'est daté, ça conserve la valeur. Alors que certains, donc dit Lomazzo, alors que certains n'ont su. Non sans science et pratique, pardon, on atteint dans l'art leur dessein, ils n'ont pas pu y arriver sans l'aide de la discrétion, discernement, c'est-à-dire sans que celle-ci soit ordonnée et disposée dans le tout qui lui est particulière. Donc, le discernement, la discrétion, dépasserait la division entre théorie et pratique. Dans la phrase, hein, ça ne suffit pas, donc, science et pratique, théorie et pratique, il faut aussi une autre chose, c'est le discernement. Alors pourquoi cette espèce de, comment dirais-je, de retour sur la nécessité d'une théorie? Pourquoi Logier, et pas seulement Logier d'ailleurs, essaye de décider d'anneau les critères de jugement qui devraient guider les jugements d'une œuvre, mais aussi les critères de jugement qui devraient guider la production d'une œuvre? Pourquoi cette espèce de nécessité au XVIIIe siècle? Logier, c'est un exemple, mais à part lui, il y a pas mal d'autres. Pourquoi cette nécessité de se référer à une raison universelle pour juger de la production toujours particulière ou singulière d'une œuvre architecturale? Et pourquoi ceci apparaît dans une époque précise? C'est-à-dire, ça apparaît à peu près entre la fin du XVIIe siècle et tout le XVIIIe siècle. Pourquoi c'est là que, par exemple, Perrault va traduire Fabricare Associatio comme théorie pratique? Pourquoi cette nécessité à cette époque de se référer, que l'architecte a des pouvoirs, s'est basé, s'est fondé sur une théorie? Je pense que cette nécessité qui continue à être et qui est constante. C'est pourquoi on est revenu ici, parce qu'on a besoin d'avoir une raison et trouver parfois des fondements au travail architectural. Cette nécessité à avoir avec les spécificités qu'il y a à l'architecture et la différence qu'elle a avec les autres arts, les autres six types de production. Et il est vrai que l'architecture, par exemple, je vais énoncer deux questions qui concernent foncièrement l'architecture et qui, à mon avis, expliquent cette espèce de besoin de se référer à une théorie, une science des proportions, une série de concepts. La première des questions est le rapport qu'il y a à l'architecture avec la question des techniques. L'architecture n'est pas étrangère à l'art de bâtir. Au contraire, elle commence par être un art de bâtir. Elle n'est pas qu'un art de bâtir, mais elle commence par être un art de bâtir. Et il est vrai que les transformations des techniques qui se produisent surtout dans ce XVIIIe siècle, avec l'apparition d'une science des ingénieurs, induisent les architectes à essayer de fonder leur travail ailleurs que dans ces techniques qui commencent à leur échapper. L'image de l'architecte juge des arts, des techniques, l'image de l'architecte qui, dans le chantier, décide de la forme architecturale, commence à se défaire. L'évolution trop rapide, les bouleversements énormes des façons de construire, conséquence de la révolution technoscientifique, font que l'architecte ne puisse pas, dès son encyclopédie, dès son savoir encyclopédique, celui qui est proposé Vitruve, gouverner le chantier. Et il doit trouver sa légitimité, doit fonder son travail ailleurs, donc dans une théorie, donc dans une science des proportions, dans une théorie de la composition, etc. Bon, la première difficulté, donc, c'est celle qu'a l'architecture de son rapport très étroit avec les techniques. Tout bouleversement technique fait que l'architecte se sent un peu échappé cet art de bâtir qui appartient maintenant plutôt aux ingénieurs, et donc il essaye de fonder sa théorie ailleurs. Deuxième difficulté que présente l'œuvre architecturale, que présente l'architecture en général, c'est par rapport aux autres types d'œuvres, parce que c'est pas la même chose une œuvre architecturale, ça concerne la manière de la saisir. L'œuvre architecturale, on ne saisit pas une œuvre architecturale, on saisit un tableau. On ne regarde pas une œuvre architecturale dans un coup d'œil. On y demeure. Il y a une temporalité, il y a un habité dans l'œuvre. On y habite. Et donc, cette espèce de différence fondamentale avec les autres arts fait qu'on ne peut pas juger de la même manière, on ne peut pas la juger de la même manière qu'on juge la peinture ou qu'on juge la musique. L'architecture, donc, a cette qualité différente. On s'attarde dans son architecture pour y rester. L'apparaître de l'œuvre architecturale, c'est toujours un apparaître, un retardement. Demeurer, c'est, dans une architecture, veut dire être dans un endroit qu'on perçoit, mais qu'on sent appartenir en tout, mais on ne perçoit pas le tout. On perçoit sans percevoir que chaque partie de cette architecture forme partie d'un tout, mais ce tout n'apparaît pas d'un seul coup d'œil. On ne peut pas les saisir de la même manière. Il faut lier cette question de la manière d'apparaître de l'œuvre architecturale avec la question de la demeure, du demeurer. Il faut comprendre que la manière de percevoir l'architecture dans un temps fait que, met en crise aussi, toute illusion d'adéquation parfaite entre une idée de la finalité de l'œuvre et la manipulation de la matière, la manipulation technique qui permet de l'obtenir. Donc l'architecture ne peut pas être considérée comme un objet technique. Il n'y a pas d'adéquation parfaite entre la matière et l'usage dans une œuvre architecturale, parce que comme on demeure, il y a toujours des destinations nouvelles qu'on y trouve, il y a toujours des intentions nouvelles qui peuvent apparaître. L'architecture ouvre sur de nouvelles intentions, sur de nouveaux usages, permet l'invention de nouveaux usages. Donc là, le rêve, l'utopie de proportionner la matière à un usage en architecture ne marche pas. Et deuxièmement, l'architecture comme objet esthétique implique qu'elle n'apparaît jamais d'un seul coup, que son apparaître est toujours un retardement. Et tout de même, l'architecture est sensiblement perçue, mais elle est sensiblement perçue par une espèce de temporalité, d'habiter. Une architecture est faite pour la parcourir, mais même si on ne la parcourt pas, on sent qu'on pourrait la parcourir. Donc voilà les inconvénients qui font que, me semble-t-il, à partir au moins du XVIIIe siècle, les architectes semblent être voués à chercher une autre fondation de leur travail, de leur invention, qu'il ne soit pas celui du jugement inventif qu'on porte sur un fabrica, sur un chantier, encore que chantier, ce n'est pas fabrica, on va y entendre tout à l'heure, et qu'il cherche dans le concept, dans les concepts d'une théorie, dans les universaux de la règle, la manière de s'en sortir. Donc, je pense que si j'évoque tout ce passage un peu historique, c'est pour dire que on pourrait peut-être être dans une situation semblable. Peut-être on pourrait, et c'est un danger que je voudrais signaler, on pourrait penser qu'à côté de cette espèce de débauche des images des néons, il suffirait de construire des théories, des concepts, de réfléchir et se remettre aux philosophes pour trouver non seulement des critères de jugement de l'œuvre, mais sinon aussi des jugements inventifs de l'œuvre. C'est-à-dire les philosophes viendront nous proposer des concepts à partir desquels l'architecture pourra trouver son chemin. Moi, je propose d'inverser un peu ces deux problèmes, ou autrement dit, d'essayer de voir dans ces deux problèmes le problème des techniques, d'une part, et le problème de la demeure, c'est-à-dire de la particularité de l'usage de l'œuvre architecturale, du demeurer. Je propose de voir dans ces deux particularités de l'architecture qui semblent demander une théorie plus rationnelle, plus construite, capable de fonder l'invention architecturale. Je propose de voir dans ces deux inconvénients deux atouts pour défendre ou pour essayer d'expliquer tout au moins la nécessité de conserver une raison inventive, un jugement inventif qui n'est pas l'application ou la résolution d'un concept. Bon. Pour le faire, Je voudrais revenir donc sur ces deux inconvénients et essayer de montrer pourquoi, même aujourd'hui, avec l'accélération des transformations techniques, avec l'apparition des programmateurs, pourquoi, malgré surtout, et parce que ceci arrive, l'architecture comme invention poétique, comme jugement inventif, a encore des beaux jours devant elle. Premièrement, je parlais donc de la question de l'intelligence technique, de la question de la technique. À la différence de tout autre artiste ou artisan, l'architecte, vous savez bien, ce n'est pas besoin que je le dise, juge des artistes, hein, guide des techniciens qui travaillent dans un chantier. Il est vrai que les matériaux avec lesquels l'architecte travaille ne sont pas les matériaux eux-mêmes, comme les sculpteurs ou les peintres. Il travaille avec des techniques qui servent à manipuler ces matériaux. Il ne manipule pas, lui, les matériaux. Il décide de la manière dont les techniciens, d'autres, des artisans, des techniciens, vont manipuler les matériaux. On pourrait dire, de manière métaphorique, que la matière avec laquelle on fait l'œuvre architecturale, c'est une espèce de savoir technique, d'intelligence technique, que chaque époque invente. Au développement. Mais il se trouve cependant, et là-dessus je voudrais m'arrêter deux secondes, il se trouve cependant que l'œuvre architecturale, même si elle manipule des techniques, elle reste toujours une œuvre produite dans une matière une. Autrement dit, le résultat final, les architectures en pluriel, chaque architecture dans sa singularité, reste un objet où la matière fait partie de la forme architecturale. Autrement dit, même si l'architecte ne manipule pas directement, lui, des matières ou des matériaux, ce qu'il produit finit pour être une singularité dans laquelle il ne suffit pas d'une forme, il faut que cette forme soit présente, qu'elle soit aussi complétée par la forme en puissance d'une matière. Je dirais plus. La matière semble en architecture, la brique, le béton, le bois, le nouveau matériau, semble venir confirmer, réaffirmer, faire rebondir la forme de toute architecture. Et ceci ne se passe pas donc de manière indirecte, sinon directe. Les matériaux sont là. Donc, il y a toujours, dans toute architecture, mis à part les questions des manipulations techniques, la présence d'une singularité, la nécessité d'une particularité. Et les résultats de cette intelligence technique, ou des inventions même des matériaux, donne à l'architecte la possibilité d'utiliser toujours, de finir pour faire participer à ces nouveaux matériaux qui sont affranchis avec l'art logique à la forme des architectures. L'architecture est d'autant plus puissante que lorsque les matériaux qui la composent peuvent participer de sa forme. Donc, la question de la technique est importante, mais l'intelligence technique en architecture ne doit pas être comprise comme l'intelligence technique abstraite. Elle finit pour être une singularité dans une œuvre particulière. Et de même que la connaissance technique permet aujourd'hui de mieux manipuler les matériaux, de faire presque n'importe quoi avec les matériaux, de même, cette intelligence technique affranchit des puissances que les matériaux possèdent qui permettent de parfaire la forme architecturale et permettent encore d'inventer des nouvelles formes architecturales. Donc, ce qui semble être un inconvénient, le développement des techniques pourrait être un atout, d'autant qu'on garde en mémoire que dans toute architecture, il y a une singularité et que dans toute architecture, dans sa singularité, dans sa particularité, les matériaux vont travailler, vont collaborer à la forme de leur film. Ce qui, dit entre parenthèses, change un peu cette idée de que l'intelligibilité architecturale est vouée à l'universel. L'intelligibilité architecturale pourrait être présente aussi dans la singularité des choses. Deuxième question, qui est en liaison avec celle-ci, étroitement lié, c'est la question de l'usage, c'est la question du demeurer. C'est la question d'une architecture qui peut jamais être le résultat conforme d'un programme. Il y a toujours, en tant qu'œuvre, l'ouverture et la possibilité de l'ouverture à l'invention de nouveaux usages. Dans la définition des fabrica, Vitruve commence cette définition en disant, la fabrica, c'est une méditation de l'usage. Et puis il continue en disant, c'est une méditation de l'usage que s'est fait en manipulant la matière. Bon, ce n'est pas une méditation de l'usage faite sans la matière, c'est une méditation de l'usage qui s'est fait à travers la matière. Aussi, je dirais plus, c'est une méditation de l'usage où la matière collabore à cette type de méditation. Barbaro, qui fait le commentaire de cette phrase, va encore exagérer, va encore aller plus loin. Il va dire, c'est pas seulement une méditation de l'usage, il dit, c'est aussi un usage de la méditation de l'usage. Il dit, l'architecte doit être usé par cette méditation de l'usage. Il doit être affecté par cette méditation. Il doit avoir chez lui une espèce d'affection qui est produite par cette pensée des usages de son architecture. Et cette pensée doit être manifeste dans la matérialité technique des œuvres. Or, je pense que cette méditation de l'usage, cet usage à la méditation de l'usage, n'est pas du tout le programme. En fait, le mot exact avec lequel traduit Barbaro méditation de l'usage aussi, c'est notice de la fin, c'est-à-dire cause finale. Présence de la finalité au début de l'opération. Comme dans les quatre causes telles que les explique Aristote, la cause finale, c'est-à-dire la destination, est celle qui fait, qui commence les processus, tout processus de production. Tout processus de production commence par une espèce des visions sur la finalité à laquelle on se dirige. On commence à faire une table lorsqu'on a une idée qu'on veut faire une table. Or, ces méditations de l'usage en architecture, cette vision sur la finalité, n'est pas, dit encore Barbaro, ne doit pas être considérée comme quelque chose de clair. Au départ, c'est quelque chose de confus. Et elle devient claire avec l'idée architecturale. C'est-à-dire, je propose de comprendre cet usage en la méditation de l'usage qui est au départ de tout processus de production architecturale, d'invention architecturale, comme une espèce de suspension de la destination des œuvres, une espèce de suspension, de mise en suspens de la finalité des œuvres, car sa finalité n'apparaîtrait qu'à la fin d'un processus, lorsque l'idée architecturale apparaît et lorsque la matière vient collaborer avec la forme pour faire tenir une architecture. Je propose qu'on pense que cette méditation de l'usage, c'est elle qui va parcourir tous les processus du jugement de l'architecte, le jugement inventif. Ce n'est pas une méditation de l'usage sociologique, ce n'est pas une méditation de l'usage philosophique, c'est une méditation de l'usage qui est capable de fabriquer une idée architecturale. C'est une méditation de l'usage, pourquoi? Parce que, à la différence de tout art, l'architecte doit penser du dedans vers le dehors. Toute architecture est faite pour quelqu'un d'autre. Tout architecte doit sortir de soi pour penser à l'utilisation que feront les autres de ce qu'il fait. Chaque fois qu'il prend une décision, il est en train d'être quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la difficulté de penser l'architecture du dehors vers le dehors. C'est pourquoi la difficulté de comprendre qu'à l'architecture, toute narcissisme est voué à l'échec. Car l'architecte doit contrôler les techniques à partir de cette vision de la finalité qui est en train de se construire dans la matière. Et donc, il est quelque part celui qui la déclenche, mais dont la fin est ouverte dans l'invention des usages que feront les autres de son architecture. Penser du dedans vers le dehors, ce n'est pas une chose facile, mais c'est une chose qu'on fait lorsque on manipule la matière en étant usé par la méditation de l'usage.
pour trois questions pour finir, parce que je ne veux pas non plus dépasser le temps qu'on... Je vais toujours demander d'être court, je vais essayer aussi d'être court. Je disais tout à l'heure, la matière collabore avec l'architecture. J'aimerais bien expliquer un peu plus ça, parce qu'il me semble que là, il y a une question importante. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi l'architecte pourrait méditer sur l'usage en fabriquant des choses. Pourquoi la traduction de cette espèce de prudence de l'architecte, des espèces de pensées prudentes sur la praxis de l'architecte, est partie d'une poiesis, et pas l'inverse. Pourquoi l'ordre habituel dans lequel on présente, dans l'éthique d'Aristote, la prudence et la production, dans lequel la prudence du juge est supérieure à la production des artisans, pourquoi en architecture, ces choses s'inversent? Pourquoi en architecture, c'est dans la production, en produisant, que l'architecte devient prudent, et c'est pas l'architecte, un juge prudent qui se mettrait au-dessus des techniciens pour juger de la pertinence des formes. Pourquoi il faut sortir d'une vision des couples fabricar-association dans laquelle l'architecte serait une espèce de, contiendrait une espèce de savoir encyclopédique capable de juger des techniques? Pourquoi ces jugements ne peuvent pas se faire que dans la production architecturale? Je disais, la matière collabore à l'architecture. Je vais encore utiliser des références anciennes pour essayer de fonder ce que je viens de dire. Dans son De Redificatoria, Alberti définissait l'architecture comme structure et lineamenta. Toute architecture donc est composée, disait-il, par de ces structures, c'est pas la matière. Et puis il y a une chose en plus qui permet d'arriver à une architecture, et cette chose en plus il l'appelle les lineamentas. Alors ces lineamentas, qu'il appelle aussi des lignes véritables, et qui sont tout à fait différentes aux lignes, aux dessins qu'utilisent les peintres, tout à fait différentes avec les dessins avec lesquels les peintres composent l'histoire d'un tableau, ces lignes, dit Alberti, sont des lignes véritables, ne sont pas des lignes fictionnelles. Or, lorsque on lit la liste des lineamentas, on s'aperçoit que ces lineamentas sont en fait six raisons particulières, six descriptions des particularités, traduit Martin. Car il s'agit, selon toujours Alberti, de la région, de l'air, de la partition, du mur, du percement et du toit. Les lignes ou les dessins avec lesquels l'architecte travaille sont en fait, d'après ces descriptions, la description des éléments matériels. Étrange définition,